9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
La gare de Toulouse, Toulouse-Matabiau, est calme en ce petit matin du samedi 18 juillet 1936. Le soleil commence déjà à être un peu fort, hein. Il caresse les quais complètement déserts. C'est ce qu'il y a d'étonnant dans les gares, c'est qu'elles peuvent être parfaitement calmes. Et puis d'un seul coup, arrive le train de nuit en provenance de Paris. Et là, c'est l'agitation, la descente des passagers, les gens qui s'interpellent, qui se retrouvent. Parmi toutes ces personnes, nous allons nous intéresser plus spécialement à cinq jeunes femmes, cinq athlètes olympiques canadiennes. Ouais, elles sont fatiguées, elles n'ont pas bien dormi dans le train de nuit, alors elles vont aller se reposer dans la salle d'attente de la gare en attendant le prochain train. Et il n'arrivera que dans 3 heures. Parmi les cinq personnes en question, Eva Dose. C'est la plus jeune du groupe, elle a 23 ans, elle est très heureuse d'être là, c'est la première fois qu'elle vient sur le vieux continent. Elle aimerait parcourir les quartiers de Toulouse, découvrir la ville rose, comme elle a découvert les rues de Paris. Simplement, elle n'a pas le temps, la correspondance est trop courte. Alors pendant que ses amis se reposent dans cette salle d'attente, eh bien, elle décide de parcourir le parvis de la gare, d'aller voir un peu ce qui se passe devant. Elle achète un journal au hasard, se pose dans un café qui est en face, elle commande elle-même un petit café, lit son journal pour faire comme tout le monde. La vérité, c'est qu'elle ne parle pas français, parce qu'elle est canadienne, mais canadienne anglophone, elle est canadienne de Toronto. Alors elle se concentre sur les gros titres et elle comprend quand même qu'en France, le gouvernement de Front Populaire à l'époque, vient d'accorder 2 semaines de congés payés avec la semaine de 40 heures. Et oui, c'est la grande, j'allais dire la mini-révolution de 1936. Elle comprend également qu'il est question de sujets militaires. L'Allemagne a réarmé la Rhénanie, l'Italie conquiert l'Éthiopie. Et bien sûr, on évoque le sujet, les Jeux Olympiques prévus à Berlin. Eva Dose est intéressée par ce sujet. Elle avait été décorée 4 ans plus tôt au JO de Los Angeles, en saut en hauteur. Elle avait obtenu la médaille de bronze pour le Canada et pour les prochaines épreuves olympiques. Elle espère faire bien mieux. Elle a l'intention de décrocher l'or. Sur le navire qui traversait l'océan Atlantique, elle s'était entraînée sur le pont. Elle avait réalisé la même performance qu'à Los Angeles, c'est-à-dire 1,60 m. Et donc, ben ça y est, elle a hâte d'être aux épreuves. Elle retourne dans la gare et va pour prendre son train qui doit partir dans une demi-heure. On la voit avec ses longs cheveux bruns qui entrent dans le hall. Elle se dirige vers la salle d'attente pour réveiller ses amis athlètes. Et sur le panneau d'affichage, le train est indiqué pour 11h22. Et la destination est indiquée Barcelone. Et oui, Eva et ses coéquipières montent dans le train en direction de l'Espagne.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est bien à Barcelone, en Espagne, et pas à Berlin que se rendent Eva et ses coéquipières pour les prochains Jeux Olympiques. Alors, il faut quand même expliquer un peu ce qui se passe, quand même. Nous allons remonter un peu dans le temps. C'est en avril 1931 que le Comité international olympique a eu à trancher entre plusieurs villes candidates pour l'organisation des JO de 36. Comme les Jeux de 32 avaient eu lieu à Los Angeles, de façon naturelle, on devait retraverser l'Atlantique et organiser les prochaines Olympiades dans le Vieux Monde. Et parmi les villes candidates, Budapest, Cologne, Francfort, Dublin, Lausanne, Rome, mais aussi 2 propositions plus sérieuses, Berlin et Barcelone. Au moment où les villes déposent leur candidature, la ville qui semble être favorite, c'est Barcelone, justement, parce que 2 ans plus tôt, en 1929, avait eu lieu une exposition universelle à Barcelone. La ville disposait donc de toutes les infrastructures nécessaires, notamment en matière de téléphonie, c'était nouveau à l'époque, et d'équipement hôtelier, bien sûr. C'est d'ailleurs en Espagne que se trouvent les membres du CIO pour faire un choix en avril 31. Barcelone est quasiment assurée d'être la ville hôte, et d'autant plus que la situation de la République de Weimar en Allemagne n'est pas florissante. On est complètement dans la grande crise qui est en train de plonger l'Allemagne dans la récession à l'époque. un élément va tout bouleverser. On est en avril 31, en Espagne, alors que le CIO est réuni à Madrid. J'ai pas besoin de vous rappeler que c'est la révolution espagnole, bien sûr. Les socialistes et les républicains chassent le roi, Alphonse XIII, après que la monarchie a perdu, enfin que le parti conservateur a perdu les élections. Et le roi doit s'enfuir, doit quitter carrément le pays. Et c'est au même moment que les membres du CIO doivent choisir. Évidemment, c'est pas des circonstances très favorables. Alors forcément, ils ne sont pas rassurés. Bien sûr que Barcelone était la ville favorite, mais d'un seul coup, ils se mettent à regarder du côté de la République de Weimar et de Berlin. Et 16 délégués vont voter pour Barcelone, alors que 43 se prononcent en faveur de Berlin. La période est changeante, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque un élément va venir te troubler l'actualité olympique, si je puis dire, c'est qu'entre-temps, vous savez qu'au tout début de l'année 1933, le pouvoir change en Allemagne, et c'est Hitler qui devient chancelier, Adolf Hitler. Alors, certains membres du CIO sont... accepte l'idée que les Jeux puissent se dérouler dans l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie qui est à ses débuts à l'époque, sur laquelle les avis ne sont pas encore tous univoques. Certains sportifs décident de ne pas se rendre dans cette Allemagne nazie, ainsi que certaines délégations. Et parmi les sportifs et délégations, on retrouve des personnalités connues pour leur engagement à gauche, ou bien des athlètes de confession juive qui n'ont pas du tout l'intention de se rendre dans un pays qui est clairement, qui est ouvertement et férocement antisémite. Dans tous les pays d'Europe se créent des groupes de boycott des Jeux de 36 avec un slogan « Pas un sou, pas un homme pour les JO de Berlin ». Ils décident à ce moment-là de créer des Jeux concurrents, vous me voyez venir, c'est vers Barcelone qu'ils se tournent. Le pays est toujours une république depuis 1931 et donc on décide d'utiliser les fameuses infrastructures de l'exposition universelle de 29 qui avaient été d'ailleurs présentées aux délégués du CIO en 31 et on décide d'appeler ça par opposition aux Olympiades officielles qui se préparent à Berlin, les Olympiades populaire. Ces Jeux ont lieu 3 semaines avant ceux de Berlin. À Barcelone, la cérémonie d'ouverture est prévue pour le dimanche 19 juillet 1936. La Boda de Luis Alonso de Jiménez, l'orchestre symphonique de la télévision espagnole en 1967, était sous la baguette d'Igor Markevitch.
Vous écoutez Radio Classique.
Inutile de vous dire que le CIO ne regarde pas tout ça d'un œil très favorable. On est inquiet au comité international de voir ces jeux concurrents qui sont en train de prendre forme. Et d'autant plus que les athlètes de haut niveau sont de plus en plus nombreux qui se déclarent à ne pas vouloir, qui se déclarent contre Berlin, qui disent ne pas vouloir aller à Berlin. Au-delà des jeux concurrents de Barcelone, ce qui inquiète le CIO, c'est que les deux principaux comités sportifs concurrents se liguent et parviennent à se fédérer. Et qui sont-ils ? Ce sont deux organismes qui s'opposaient au CIO. Le CIO qui a une réputation conservatrice, et là, ce sont plutôt des organismes progressistes. Il y a d'abord l'International Sportif de Lucerne, fondée en 1920, à tendance social-démocrate, et l'International Rouge du Sport. Bon, là, j'ai pas besoin de vous expliquer que ce comité-là est dirigé et piloté depuis l'URSS. Le but depuis des années, c'est de concurrencer le CIO. Et avec ces jeux de 36 dans l'Allemagne nazie, ils ont trouvé le créneau parfait pour lutter contre le CIO et trouver un projet qui arrive à fédérer bien au-delà de leur propre sensibilité politique. On présente donc ces Jeux de Barcelone comme des Jeux du pacifisme. Les organisateurs disent vouloir abattre la vision bourgeoise d'un sport qui ne regrouperait les athlètes que sous des bannières nationales et qui divise donc les vrais travailleurs. Ils veulent diversifier les épreuves, inclure tout le monde. À côté des épreuves habituelles, natation, athlétisme, football, etc., on ajoute la pétanque, les échecs, la pelote basque. C'est ce qui est présenté comme le vrai universalisme et une partie des sportifs le proclame de plus en plus. Les vraies valeurs du sport se trouveront non pas à Berlin, mais à Barcelone. Fabien Archambault vient de faire paraître chez Flammarion les légendes du siècle. Et voici ce qu'il écrit sur ces Jeux de Barcelone. Ainsi, c'est au nom d'un idéal olympique désormais dévoyé que sont dénoncés les Jeux de Berlin à venir, ces derniers n'en constituant que la falsification honteuse, militarisée et commercialisée, raciste et misogyne. Face à cette dégénérescence, et réaffirmer, nous dit Fabien Archambault, la conviction que le sport doit contribuer à l'émancipation du genre humain. Sur l'affiche officielle des contre-jeux de Barcelone figure par exemple un anneau unique sur la bannière olympique correspondant au O majuscule d'Olympiada, dont la hampe est tenue par un blanc, un noir et un asiatique. Le manifeste souhaite par ailleurs que la participation des femmes soit la plus large possible, ce qui irait de pair avec la nécessité de leur donner des droits égaux à ceux des hommes. Voyez, on va loin. Enfin, ajoute notre auteur, l'objectif principal reste de démontrer la vitalité et la supériorité d'un sport olympique resté pur parce que fondamentalement populaire au sens où cette catégorie est politiquement construite par la culture de l'antifascisme. Le comité d'organisation espagnol est ainsi satisfait du nombre d'athlètes qui se sont inscrits, 6 000, plus élevé que celui de Berlin, un peu moins de 4 000. Il s'agissait indéniablement d'une réussite, étant donné qu'aucune délégation allemande, autrichienne ou soviétique n'avait fait le déplacement. Et de fait, l'idée d'un boycott des Jeux de Berlin est en train de progresser, de faire son chemin. Un sondage réalisé aux États-Unis fin 35 révèle que 43%, je dis bien 43% des Américains sont favorables au boycott des Jeux de Berlin. Le pays vers lequel se tournent les organisateurs des Jeux de Barcelone, c'est la France, bien entendu. France, patrie de l'olympisme moderne d'abord. Et puis, rappelez-vous qu'en juin 36, Léon Blum est entré à Matignon. On espère que ce nouveau gouvernement, si affiché à gauche, va soutenir les Olympiades populaires le 12 juin. On prend rendez-vous avec le sous-secrétaire d'État à la jeunesse, au sport et aux loisirs de ce gouvernement de Front Populaire, Léo Lagrange, bien entendu. Et là, grosse déconvenue, le Front Populaire n'a pas l'intention de modifier le point de vue de la France. La participation du pays se fera aux Jeux de Berlin. Il n'est pas question que la France se retourne vers les Olympiades, enfin les contre-Olympiades, si l'on peut dire, de Barcelone. Alors tout de même, Léon Blum, toujours dans la même politique un peu de mi-chèvre, mi-chou, vous savez, va subventionner pour 600 000 francs le déplacement d'un certain nombre d'athlètes français qui se sont inscrits aux Olympiades populaires de Barcelone. 1500 sportifs qui forment la deuxième plus grande délégation derrière les Espagnols à ces Jeux de Barcelone. Et d'ailleurs, la seule délégation officielle à accepter l'idée d'un déplacement entier à Barcelone, c'est la délégation du mandat britannique de Palestine qui est composée entièrement de juifs qui, eux, n'ont évidemment pas du tout l'intention d'aller saluer Hitler à la cérémonie d'ouverture à Berlin, bien entendu. Ce sont les seuls. Les autres, eh bien, vous avez comme ça des délégations par pays, certaines délégations officielles partent pour Berlin et des délégations officieuses pour Barcelone. On est à la mi-juillet 36, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas mal d'athlètes sont déjà à Barcelone. Ils sont heureux, bien sûr, avant même la cérémonie d'ouverture. On compte déjà beaucoup plus d'athlètes qu'il n'y en aura à Berlin 3 semaines plus tard. C'est donc un très grand succès pour les organisateurs, sauf que un élément imprévu va venir tout bouleverser. l'Orchestre National Royal d'Écosse, sous la direction de Némé Järvi, interprétait cette marche impériale de Wagner.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
La cérémonie d'ouverture des Olympiades populaires de Barcelone est prévue pour le dimanche 19 juillet 1936 et le Palais de Montjuïc est prêt à accueillir, à recevoir toutes les épreuves. On se prépare, on s'est entraîné. Et oui, sauf que deux jours avant cette cérémonie d'ouverture, le 17 juillet, alors qu'on est vraiment dans les tout derniers préparatifs, arrive à Barcelone des informations en provenance du Maroc espagnol en l'occurrence. Des militaires ont pris le pouvoir. Le 17 au soir, la situation est assez floue à Barcelone, on ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer, sauf que le lendemain, le 18 juillet, c'est-à-dire un jour avant le début des Olympiades, des forces armées vont défiler dans les rues de la capitale catalane et conseiller à tous les habitants de rester chez eux. Mais que se passe-t-il? Les habitants de Barcelone, y compris des athlètes bien sûr, comprennent que c'est un putsch militaire qui est en train de se déployer à travers l'ensemble de la péninsule. C'est le début de la guerre civile, ce qu'on va appeler la guerre d'Espagne. Et comme on a pu le voir, parmi les athlètes, il y en a beaucoup qui sont des militants de gauche. Pas tous, bien sûr, mais certains qui n'acceptent évidemment pas du tout l'idée de ce putsch contre la République espagnole, qui n'ont pas l'intention de rester passifs et qui vont prêter main forte aux républicains espagnols pour s'opposer au général Franco et à ses troupes nationalistes qui sont en train de déferler. Et on va monter dans la ville des barricades. D'ailleurs, à Barcelone, le soulèvement militaire a échoué, hein, puisque les combats qui vont faire 600 morts, d'ailleurs, dans la ville catalane, vont marquer la victoire temporaire des loyalistes, c'est-à-dire des partisans de la République, qui ont été aidés en masse par tous ces athlètes qui étaient arrivés. Alors, bon, ça c'est l'aspect politique et militaire, mais qu'en est-il des Olympiades populaires ?
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ça devait être un franc succès, ces Olympiades. Mais maintenant, comment voulez-vous qu'elles se tiennent dans ce pays complètement déchiré par la guerre civile? Je cite Fabien Archambault. Pendant deux jours, la majorité des athlètes restent cloîtrés dans les hôtels ou dans les appartements dans lesquels ils ont été hébergés avec interdiction d'en sortir. Celle-ci, cette interdiction, est levée dans l'après-midi du 20 juillet et on annonce même que les Jeux pourront sans doute commencer le surlendemain 22 pour une durée réduite à 3 jours. Cependant, la plupart des étrangers reçoivent l'ordre de leur gouvernement respectif de quitter l'Espagne sur le champ. Beaucoup rechignent, mais doivent s'incliner. Les Britanniques, par exemple, sont embarqués de force sur un navire de la Royal Navy qui stationnait à Barcelone pour être emmené en direction de Marseille. Le soir du 22 juillet, les Jeux sont officiellement annulés. Et c'est contre cette contre-Olympiade, finalement, cette Olympiade populaire, si l'on peut dire, ne commencera jamais. Vous imaginez la déception générale. Ces Jeux de Barcelone s'annonçaient comme un rassemblement pacifiste en opposition aux Jeux que l'on considérait comme bellicistes de Berlin. Contre leur gré, tout ça sera impossible. Seuls les Jeux de l'été 36, ceux de l'Allemagne nazie, seront organisés. On a bien sûr le souvenir infini et multiple de toutes les images de ces Jeux de Berlin en 36. Les Olympiades de Barcelone vont créer néanmoins une sorte de vivier de combattants face au putsch militaire du général Franco. Nous étions venus défier le fascisme sur un stade et l'occasion nous fut donnée de le combattre tout court. Voilà ce qu'un certain nombre des fédérations sportives qui s'étaient déplacées, qui avaient fait le déplacement jusqu'à Barcelone, vont déclarer. Alors, je vous rappelle que nous suivions, enfin quand je dis nous, c'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission et il nous avait proposé de suivre la jeune Eva Doze, cette Canadienne qui était toute excitée sur le quai de Toulouse pour prendre la direction de Barcelone, cette jeune femme que nous avions trouvée à la gare de Matabio le 18 juillet 1936. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, avec ses coéquipières, elle se dirigeait vers le quai où est censé se trouver le train qui devait la conduire à Barcelone, en passant par Perpignan, Figueras, Gérone. Mais alors qu'à l'approche du train vers 11h du matin, un agent de la SNCF vient les voir et leur dit que la frontière espagnole est fermée. À l'époque, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on a fermé la frontière. On ne sait pas encore qu'il y a ce putsch militaire, etc. Il a entendu dire qu'il y a des remous politiques, que les douaniers ont indiqué le matin même que rien ni personne ne pourrait de toute façon passer la frontière, ni pour ce samedi, ni le lendemain d'ailleurs. Les athlètes canadiennes sont déçues. Au premier rang, la jeune Eva, la cérémonie d'ouverture devait juste avoir lieu là, le lendemain. Elles vont rester 2 jours à Toulouse, elles recevront des nouvelles de cette tentative de putsch et le gouvernement canadien exige qu'elles n'aillent pas en Espagne, bien qu'il soit évident que les Jeux Olympiques n'auront pas lieu. Les athlètes canadiennes rentrent donc, d'abord elles se rapatrient à Londres, où elles vont attendre un navire pour les ramener là-bas chez elles au Canada. Et c'est à ce moment-là, c'est lors de ces quelques jours, qu'Eva va rencontrer le grand amour de sa vie. Il s'appelle Arthur Pink. Les deux jeunes gens vont tomber éperdument amoureux. Eva doit rentrer quand même au Canada, mais un an plus tard, elle reviendra en Angleterre pour épouser Arthur. Et elle n'a donc pas fait tout à fait le voyage pour rien jusqu'au vieux continent où elle vivra pour le restant de ses jours. Elle ne mourra à l'âge de 96 ans qu'en 2009, et on peut dire que toute sa vie, elle gardera la médaille qu'elle avait remportée aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932.
Vous écoutez Radio Classique.
Voici notre médaillé à nous, il s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian.
Ah, il va peut-être y avoir d'autres amours naissantes lors des Jeux Olympiques cet été. Sait-on jamais, ça apporterait au moins une petite fleur sur les Jeux Olympiques. C'est toujours une préoccupation, parce que j'entendais hier une de nos journalistes qui évoquait quelques rendez-vous de football en France, où certains fans de clubs sont interdits, parce que le sport n'est pas que du sport. Hein. Quelquefois, il y a un autre sport en parallèle. Oui, c'est toujours ennuyeux.
C'est toujours un moment enthousiasmant, les Jeux Olympiques.
Oui, enthousiasmant, oui. L'enthousiasme, c'est bien. Mais de là à se bagarrer pour le sport, vous en savez quelque chose. Le vélo, quand même, ça va mieux. Hein, sur les routes de France, cet été, c'est vrai que ça va approcher dans quelques temps pour vous. Cet après-midi, vous allez nous parler d'un autre sujet totalement opposé, c'est Saladin. C'est la démolition de la Bastille.
Voilà, exactement.
Alors là, il y a des gens qui ont gagné pas mal d'argent parce qu'on construisait des petites Bastilles dans les pierres de la Bastille.
C'est ça, exactement.
Oui, c'est formidable. Et Beaumarchais habitait d'ailleurs.
Beaumarchais habitait à côté, oui.
À côté. Et d'ailleurs, j'ai une reproduction d'une peinture où l'on voit la bordure de la maison qui était quand même.
Très bel hôtel
particulier, où l'on aperçoit la Bastille derrière. Beaumarchais, bien sûr, qui a fait partie un petit peu dans ses écrits des gens de la Révolution, quelque part. Bien, mon cher Franck, je vous souhaite une excellente journée. Le soleil est là pour vous éclairer l'histoire, comme vous le faites chaque jour à 9h le matin, à 14h, et puis avec ce point du jour à 8h moins 5 aux côtés de David Abiker. Bonne journée.